la question que je me propose dans cette conférence, c'est principalement la question, pas seulement Lévinas et la littérature, mais pourquoi est-ce que Lévinas n'aimait pas la littérature? Ou c'est déjà un peu trop faible, pourquoi est-ce qu'il détestait la littérature? Qu'est-ce qu'il y a dans la littérature qu'il n'aimait pas, qu'il refusait de voir? Et je vais parler principalement de deux écrits, deux textes, deux articles de Lévinas qui étaient écrits tous les deux dans les années 40. Le premier, un texte qui s'appelle « L'autre dans Proust », un article consacré à Proust, publié dans 1947. Et le deuxième, qui est le premier texte que je vais discuter, c'est un article où il déclare sa haine pour le fait qu'il déteste l'art et la littérature. C'est un texte qui s'appelle « La réalité sans ombre », publié en 1948. Lévinas, grand philosophe, comme vous savez, de l'éthique française, aurait été surpris, et je pense pas très flatté, qu'on parle de lui dans le contexte de la théorie littéraire. C'est pourtant ce que je me propose de faire aujourd'hui. Lévinas ne s'est essayé que rarement à la critique littéraire, et pour la plupart, ses interprétations de textes littéraires ne sont pas impressionnantes. En général, il n'avait pas beaucoup d'estime pour l'art et la littérature, même si on trouve dans ses écrits des références admiratives, mais éparses, à des écrivains tels que Homer, Dostoïevski et Shakespeare. Il était un lecteur génial des grandes œuvres philosophiques, comme l'ont prouvé par exemple les essais qu'il a consacrés dans les années 30 du siècle dernier à Husserl et Heidegger, essais qui ont joué un rôle essentiel à l'introduction en France de la phénoménologie allemande. Puis, depuis les années 60 jusqu'à sa mort en 1995, il s'est consacré à la lecture serrée du Talmud, travail qui est à l'origine des commentaires talmudiques publiés dans ses livres « Quatre lectures talmudiques du Sacré Saint et l'au-delà du verset ». S'il était persuadé que le texte en valait la peine, Lévinas était capable d'être un lecteur méticuleux, acharné, inspiré même. Et ce qui est en jeu dans ses actes de lecture, c'est précisément un élément majeur de sa philosophie éthique, à savoir la possibilité d'une rencontre respectueuse, ouverte et transformatrice avec quelque chose ou quelqu'un qui soit entièrement imprévu, doté d'une altérité absolue. Mais le plus souvent, Lévinas ne considérait pas que cette altérité dangereuse et bénéfique pourrait être trouvée dans un texte écrit, et certainement pas dans la littérature séculaire. Aujourd'hui, ce que je veux faire, c'est analyser la méfiance, voire l'hostilité de Lévinas envers la littérature, en vue de comprendre les raisons pour lesquelles il lui refuse toute portée éthique. Tout se passe dans les écrits de Lévinas comme si le texte littéraire est atteint d'une altérité déviante, une mauvaise altérité si vous voulez, en comparaison avec la bonne altérité que Lévinas cherche à mettre en lumière. Puis, je parlerai de façon quelque peu schématique de l'essai que Lévinas a consacré à Proust qui s'intitule « L'autre dans Proust ». En dépit de la marginalité de ce texte dans l'œuvre de Lévinas, les enjeux de l'essai sont importants. Il s'agit de demander s'il peut y avoir une rencontre véritable avec l'altérité littéraire, si le texte littéraire est capable de nous parler à partir de sa différence absolue, ou si, bien au contraire, il ne peut servir que de miroir qui nous reflète ou sur lequel nous projetons ce que nous savons déjà. Or, Lévinas a exprimé son hostilité irrévocable envers la littérature dans l'article qui s'intitule « La réalité et son ombre », publié en 1948 dans les temps modernes. quoiqu'il ne traite pas explicitement de la pensée de Heidegger ou de Sartre, on est en droit de soupçonner que c'est contre le grand penseur allemand et le chef de file de l'existentialisme français que Levinas s'indigne ici. Dans son essai « L'origine de l'œuvre d'art » des années 30, Heidegger décrit l'œuvre d'art comme le lieu où l'on peut se porter témoin de ce qu'il appelle l'événement de la vérité. Et Sartre, c'est bien connu, défendait la thèse que la fiction littéraire est et devrait rester engagée dans le monde des affaires humaines. Pour Levinas, par contre, l'art n'est ni révélateur de vérité, ni véhicule de l'engagement sur les plans politiques et éthiques. Il est au contraire, selon Levinas, je cite, « l'événement même de l'obscurcissement, une tombée de la nuit, un envahissement de l'ombre ». L'événement de la vérité de Heidegger a été remplacé par l'événement de l'obscurcissement de Levinas. L'art ne saurait nous apporter rien de bon. Par lui, les objets perdent leur réalité, ils deviennent obscurs et insaisissables, relégués à un monde fantomatique, plus proche de la mort que de la vie. L'art narratif n'est pas plus acceptable pour Levinas que l'art pictural. Le roman, selon Levinas, je cite, enferme les êtres dans un destin malgré leur liberté. Il fixe les identités et falsifie l'expérience du temps parce qu'il en supprime l'ouverture dialectique. Levinas se livre alors à une attaque sans merci contre l'art dans toutes ses formes. Et je cite Levinas, d'autre part, essentiellement dégagé, l'art constitue, dans un monde de l'initiative et de la responsabilité, une dimension d'évasion. Il apporte dans le monde l'irresponsabilité qui flatte comme la légèreté et la grâce. Faire ou goûter un roman et un tableau, c'est ne plus avoir à concevoir, c'est renoncer à l'effort de la science, de la philosophie et de l'acte. Ce n'est pas le désintéressement de la contemplation, mais de l'irresponsabilité. Le poète s'exile lui-même de la cité. C'est toujours Levinas. Il y a quelque chose de méchant et d'égoïste et de lâche dans la jouissance artistique. Il y a des époques où on peut en avoir honte, comme de festoyer en pleine peste. Fin de citation. Il n'y a qu'un remède, selon Levinas, contre l'irresponsabilité et le dégagement de l'art. C'est ce que Levinas appelle une critique philosophique. La critique oppose la lucidité du philosophe au mutisme et à l'équivoque de l'art. En elle-même, l'œuvre d'art est immobile, figée et silencieuse. La critique met l'art en mouvement et le fait parler. Elle s'efforce de découvrir la vérité philosophique qui se cache dans la non-vérité mythique de l'art. Et Levinas de conclure, je cite, l'interprétation de la critique parle en pleine possession de soi, franchement, par le concept qui est comme le muscle de l'esprit. On assiste ici à un renouvellement de la querelle deux fois millénaire entre la philosophie et la littérature, annoncée, on le sait, dans la République de Platon. Renouvellement qui aurait de quoi surprendre en plein milieu du XXe siècle, entrepris par un penseur à tendance heideggerienne dans la Revue de Sartre. Le contexte historique et intellectuel explique en partie, mais seulement en partie, la position de Levinas. À cette époque, il était déjà un peu moins heideggerien qu'il ne l'avait été dans les années 30. Il ne pardonnera jamais à son ancien maître le silence qu'il a maintenu concernant les crimes nazis, surtout l'Holocauste. Et l'engagement sartrien, qui fait appel aux hommes et femmes à mains sales, prêts à accepter les risques, les échecs et les compromis de la vie politique, l'engagement sartrien n'a rien pour satisfaire à l'exigence éthique inconditionnelle, je dirais même l'orgueil éthique, d'un Levinas. Mais tout ceci ne suffit pas pour expliquer tout à fait la méfiance de Levinas envers l'art et la littérature, ni sa défense de la fonction de la critique. Ce qui est frappant, à mon avis, dont la réalité est son ombre, c'est que le raisonnement de Levinas repose sur des valeurs qui sont tout autres que levinasiennes. Rappelons exactement ce qu'il conclut. Il dit « L'interprétation de la critique parle en pleine possession de soi, franchement, par le concept qui est comme le muscle de l'esprit. La critique est censée être plus responsable que l'art parce qu'elle est, je cite, « en pleine possession de soi ». Est-ce vraiment ici le même Levinas qui soutiendra dans son premier chef-d'œuvre « Totalité et infini » de 1961 que le sujet éthique découvre sa responsabilité au moment même qu'il se voit volé de sa possession de soi? Ou le même Levinas qui, dans son deuxième chef-d'œuvre philosophique « Autrement qu'être ou au-delà de l'essence » de 1974, décrira le sujet de l'éthique comme obsédé, otage ou substitut d'un voisin dont il se doit d'expier les fautes et les crimes, plutôt qu'un être autonome et suffisant. Et cette primauté du concept dans la réalité est son ombre. Levinas parle du concept qui est comme le muscle de l'esprit. Cette primauté du concept semble contredire, c'est le moins qu'on peut dire, son refus de la pensée conceptuelle à cause de la violence qu'elle exerce sur la liberté de l'esprit. L'aspect, à mon avis, le plus séducteur et le plus puissant de la pensée de Levinas, c'est précisément sa volonté d'écouter ce qui échappe au concept, ce qui ne pourrait se réduire à nos idées toutes faites, ce qu'il appelle le dire qu'aucun dit ne pourrait contenir. Bon, on pourrait dire simplement que Levinas n'aimait pas la littérature, ça c'est évident, ou peut-être qu'il s'est ravisé plus tard dans sa carrière. Plusieurs critiques, et je note en passant que, pour des raisons que je ne suis pas à même de comprendre moi-même, ce sont des critiques de langue anglaise qui semblent s'intéresser au rapport de Levinas et de la littérature, plutôt que les critiques français. Bon, plusieurs critiques ont soutenu que Levinas est plus conciliant envers la littérature après les années 40, notamment dans des articles consacrés à des écrivains tels que Blanchot, Jabez, Paul Celan et Roger Laporte. On pourrait aussi dire que la pensée éthique de Levinas dépend de la possibilité d'une rencontre transformatrice avec l'altérité absolue et que pour lui, un texte littéraire n'est simplement pas un lieu de rencontre en ce sens. Mon hypothèse est différente. Il me semble que ce que Levinas refuse dans la littérature, c'est précisément l'altérité qui s'y trouve, mais qu'il s'agit d'une altérité autrement radicale, différemment radicale, que celle qu'il recherche. Je m'explique. Je ne suis pas le premier à faire remarquer que la notion d'altérité absolue pose des problèmes majeurs pour la démarche levinasienne. Si l'autre était vraiment totalement en dehors du monde de ma connaissance et de mon expérience, il n'aurait strictement rien à me dire. Je ne serais même pas capable de m'en apercevoir, tellement il me serait inconcevable. Pour que j'entre en rapport avec l'autre, il faudrait qu'il y ait quelque chose que nous puissions partager, fût-ce minime. En d'autres termes, pour rencontrer l'altérité, il faut un terrain commun où je peux la rencontrer. Sinon, la rencontre sera et doit être manquée. Il s'ensuit que l'altérité, qui devrait être ce qu'il y a au monde de plus imprévisible, ne pourrait être rencontrée que là où elle est quand même un tout petit peu prévue. Pour réussir, la rencontre doit être en quelque sorte désirée, voulue, attendue et acceptée d'avance. Donc, elle dépend de moi, dans une certaine mesure, même si le moi tel que je le connais ne lui survivra pas. Mon hypothèse est que Levinas trouve dans la littérature, précisons, dans la littérature séculaire, pas dans le Talmud, Levinas trouve dans la littérature ce que j'ai appelé une mauvaise altérité, dont il ne veut rien savoir ni apprendre. En plus, le refus de lire, le refus de trouver dans la littérature rien d'autre que ce qu'il savait déjà, finit par mettre en question les fondements mêmes d'une éthique qui repose sur la possibilité d'une rencontre avec ce qui ne peut être ni connu ni assimilé. C'est-à-dire, et j'y reviendrai, que le refus de lire, le refus de la lecture chez Levinas, est un point faible de sa pensée et il met en danger ses prises de position éthiques. Ceci n'est pas dire que Levinas s'abstenait de tout contact avec la littérature. Et je viens enfin à Proust. Ceci n'est pas dire qu'il s'abstenait de tout contact avec la littérature. Et même, en 1947, une année avant l'apparition de la réalité et son ombre dans les temps modernes, Levinas écrivait un article sur Proust, dont la lecture lui avait été recommandée dans les années 30 par son ami Maurice Blanchot. Pourquoi le philosophe aurait-il entrepris d'écrire sur Proust précisément en 1947? Il venait de passer la quarantaine, moment difficile, et jusqu'alors, il ne s'était montré que peu enclin à la critique littéraire. Qu'il eût été prisonnier de guerre en Allemagne pendant la guerre, lui a sans doute sauvé la vie. En tant que prisonnier de guerre, il a échappé au destin de tant de juifs français qui sont morts, déportés dans les camps de concentration nazis. Depuis son retour de l'Allemagne, il repensait radicalement ses allégeances philosophiques. Il se détachait définitivement de la phénoménologie de Husserl et de Heidegger au profit de l'éthique de l'altérité qui constitue son apport majeur à la pensée française d'après-guerre. Il s'était aussi engagé, dès 1947, donc dès la même année, dans une période d'études intensives du Talmud, et son intérêt au texte sacré de la tradition juive porterait des fruits publics dans les années 60 grâce à ses commentaires talmudiques qui deviendraient un point fort du colloque annuel des intellectuels juifs français. Pour plusieurs raisons alors, 1947 ne semblait guère un moment propice à la critique littéraire, du moins si on était philosophe juif en train de réinventer sa pensée et désenchanté de la littérature séculaire. Et pourtant, comme je l'ai dit, Levinas a écrit son essai « L'autre dans Proust » dans lequel il se vante de nous dévoiler l'essentiel de la création proustienne. Et ce qui est intéressant dans sa lecture de Proust, c'est le rapport entre ce qu'il trouve dans la recherche du temps perdu et ce qu'il ne veut pas ou ne peut pas y trouver. J'en parlerai dans le temps qui me reste. Or, dans l'autre dans Proust, Levinas commence par faire l'esquisse de deux lectures de Proust, selon lesquelles le romancier serait soit un psychologue, Levinas l'appelle maître du calcul différentiel des âmes, donc soit un psychologue, soit un sociologue, nouveau Saint-Simon, dit Levinas, d'une noblesse sans Versailles. Mais, selon Levinas, la psychologie proustienne est périmée, et, en plus, sa sociologie n'est pas convaincante. Mais il ne faut pas s'en lamenter, parce que le discrédit dans lequel sont tombés ces aspects de l'œuvre d'art, le discrédit dans lequel sont tombés ces aspects de l'œuvre de Proust, nous, selon Levinas, ramène à l'essentiel. Il nous permet de voir Proust tel qu'il est, en vérité, et c'est cette vérité de Proust que Levinas se promet maintenant de nous révéler. Et le moment clé à mon avis, le moment le plus important, le choix le plus important dans la discussion de Levinas, c'est la décision de considérer Proust comme un poète plutôt que comme un penseur ou même un romancier. Selon les critères élaborés par Levinas, le penseur, c'est quelqu'un qui exprime une pensée connue d'avance, tandis que le poète se sert du langage pour faire exister un objet doué d'ambiguïté et d'équivoque. Ce n'est pas dire que Proust ne soit pas un théoricien incorrigible, mais pour lui, la théorie n'est pas une fin en soi. Son objet n'est ni connaissance ni sagesse. Elle n'est au contraire qu'un moyen, car selon Levinas, dans la poésie proustienne, je cite, « il ne s'agit pas d'exprimer, mais de créer l'objet. » Et ceci en ayant recours à sortilèges et incantations qui font que dans le texte proustien, tout est mystère et indétermination absolue. Le lecteur assiste à la destruction de tout ce qui est connu, connaissable et réglé par des lois fixes. Je cite Levinas, « Les métamorphoses et les évolutions des personnages les plus invraisemblables s'imposent comme les plus naturelles dans un monde revenu à Sodome et Gomorre. Les relations s'établissent entre les termes qui semblaient les refuser. Tout est vertigineusement possible. » Or, on aurait tort de chercher dans le texte proustien une conception cohérente, redevable à la psychologie ou la sociologie. Proust ne nous offre non plus une connaissance assurée du monde ou du soi. Plus le narrateur proustien poursuit la connaissance, plus elle se retire, s'éclipse, disparaît. La désignation de Proust comme le poète de l'indétermination, plutôt que le romancier de la découverte de soi-même, ouvre la voie à la deuxième décision interprétative importante de Levinas, à savoir l'assimilation de Proust à une éthique de l'altérité. Dans le monde indéterminé de la poésie proustienne, le sujet s'aliène à soi-même et découvre à travers cette non-coïncidence à soi la présence de l'autre. Je cite Levinas, « Tout se passe comme si un autre moi-même doublait constamment de moi, dans une inégalable amitié, mais aussi dans une foi d'étrangeté que la vie s'efforce à surmonter, le mystère chez Proust et le mystère de l'autre. » Et c'est surtout dans la souffrance amoureuse que nous sommes confrontés à la singularité insurmontable de l'autre. Albertine incarne ce que Levinas appelle cette étrangeté qui se moque du savoir, qui provoque une insatiable curiosité pour l'altérité d'autrui, à la fois vide et inépuisable. Levinas fait allusion ici à la conception de l'amour dont il avait fait l'esquisse dans Le Temps et l'Autre de 1947, encore une fois, et qui serait élaboré de façon plus rigoureuse dans Totalité infinie. L'amour de Levinas, l'amour levinasien, n'est ni la fusion, ni la communication de deux âmes sœurs qui s'appartiennent de droit et qui ensemble formeraient une unité sans faille. Il s'agit plutôt d'une relation sans réciprocité avec l'autre en tant qu'autre, c'est-à-dire en tant qu'être qui ne saurait être connu ni possédé. Et dans la conclusion de l'autre dans Proust, l'enjeu de la rencontre amoureuse s'avère même plus important. Tout en désignant l'amour comme relation à l'autre, Proust annonce une rupture décisive avec la pensée occidentale, dans la mesure où il fait éclater la tradition qui voit dans l'unité l'apothéose de l'être. C'est le mystère de l'autre qui marque nos amours, notre monde et notre intériorité même d'une empreinte indélébile. Levinas ne parle pas ici explicitement de l'éthique, mais il est quand même clair que son analyse de Proust fait écho à l'éthique de l'altérité à laquelle il consacrerait le reste de sa carrière. Proust détruit le règne de l'être et fait découvrir la primauté de l'autre. Bon, voici donc, il me semble, un Proust bizarrement lévinassien. Peut-être que Lévinas exagère dans sa réhabilitation de Proust. Il est certes surprenant que laisser l'autre dans Proust s'obstine à trouver dans le roman de Proust un point de vue compatible avec celui de Lévinas, tandis que la réalité et son ombre refusent à la littérature toute portée intellectuelle et éthique. Lévinas lui-même est sans doute moins convaincu qu'il ne le paraît. La dernière phrase de l'autre dans Proust fait le résumé de sa lecture tout en en faisant ressortir un élément d'ambivalence. Voici la dernière phrase de l'autre dans Proust. Lévinas écrit « Mais l'enseignement le plus profond de Proust, si toutefois la poésie comporte des enseignements, consiste à situer le réel dans une relation avec ce qui a jamais demeure autre, avec autrui comme absence et mystère, et à la retrouver dans l'intimité même du jeu, à inaugurer une dialectique qui rompt définitivement avec Parménide. » L'éloge de Proust risque de devenir excessif. Proust est présenté comme un poète de qualité. Il découvre l'existence de l'altérité de l'autre en même temps que l'altérité qui travaille à l'intérieur même du jeu, et il met en branle l'édifice entier de la philosophie occidentale. Et pourtant, Lévinas hésite. Il nous explique l'enseignement de Proust, mais au dernier moment, il semble être en prise au doute. « Si toutefois la poésie comporte des enseignements, dit-il, et la concession est loin d'être donnée. » Lévinas nous dit, en même temps, qu'il y a un enseignement de Proust et qu'il n'y en a peut-être pas. La poésie nous apprend des choses très importantes et elle n'a rien à nous apprendre. Et on est en droit de revenir sur le fait que le Proust de Lévinas est, comme je l'ai dit, bizarrement lévinassien. Est-ce que Proust aide Lévinas à concevoir un nouveau départ philosophique, une période de sa vie où tout est à recommencer? Ou est-ce que le romancier ne sert que de prétexte pour un philosophe qui n'a en vérité rien à en tirer? Il se peut que Lévinas n'ait trouvé dans le texte de Proust que ce qu'il était en mesure d'y trouver, c'est-à-dire exactement ce qu'il savait avant de l'aborder. Il paraît que dans cet essai qui concerne avant tout la découverte de l'altérité, Lévinas n'a fait que découvrir son propre reflet. Et si c'est le cas, il est possible que la rencontre avec l'altérité, précisant l'altérité d'autrui ou d'un texte, du texte comme autre, la rencontre avec l'altérité que l'article de Lévinas s'efforce à décrire, cette rencontre est ce qui n'a pas lieu ici, ce qui n'arrive pas à se produire dans la lecture de lévinassienne de Proust. Ce qui est fascinant dans cet article, c'est que la pensée de Lévinas y est saisie à un moment d'incertitude et d'indécision. Des termes clés tels que mystère, enseignement et même éthique n'ont pas le sens ou la valeur qu'ils auraient dans les textes ultérieurs de Lévinas. Les sortilèges, l'incantation et la magie en lesquels semble résider l'enseignement de Proust portent ici une charge apparemment positive, mais ils seront condamnés dans la réalité et son ombre et dans totalité infinie parce qu'ils représentent la puissance mystificatrice, mensongère et donc inacceptable de la poésie. C'est comme si Lévinas ne savait pas encore ce qu'il pensait. Il se range provisoirement derrière la poésie pour en approuver les ressources philosophiques, mais à la seule condition que ces ressources-là soient en service d'un message qui lui convient. L'année suivante, quand il en arrive à publier la réalité et son ombre, tout serait changé. L'article sur Proust fournit à Levinas l'occasion de développer des positions qui sont encore en voie d'élaboration et qui ne sont pas encore figées dans leur forme définitive. Dans l'autre dans Proust, on entrevoit un projet intellectuel qui hésite sur la poétique, la littérature. Rien n'est décidé, tout est possible. Et je voudrais souligner deux aspects de l'autre dans Proust. Premièrement, Levinas parle du roman de Proust comme s'il était de la poésie plutôt qu'un exemple de l'art narratif. Le philosophe se fixe sur le moment de la rencontre entre le moi et l'autre et ses conséquences immédiates pour le moi, l'amour et l'être. Mais il ne s'intéresse pas du tout au développement narratif de la relation à travers le temps. Deuxièmement, malgré toutes les raisons qu'aurait Levinas de se défendre contre les charmes de la littérature et malgré les signes d'incertitude dans son texte, l'évaluation de Proust reste pour la plupart positive parce que son texte semble être régi par une perspective éthique qui est aussi celle de Levinas. Plus tard, je suggérerai qu'il y a un lien déterminant entre ces deux aspects de la lecture levinasienne. Mais avant d'y revenir, je voudrais examiner brièvement ce que l'approche de Levinas explique et ce qui n'explique pas dans le roman de Proust, spécifiquement pour rendre la tâche plus facile dans la partie du roman qui s'intitule « Un amour de Swann ». Selon Levinas, dans l'autre dans Proust, le rapport amoureux serait un terrain privilégié pour faire l'expérience de l'altérité. Dès sa première phrase pourtant, Un amour de Swann décrit un environnement peu favorable à l'accueil bienveillant du nouveau et de l'inconnu. Le clan Verdurin exige de toute nouvelle recrue qu'elle adhère tacitement à un credo immuable. Le clan occupe un espace clos entièrement consacré à la répétition du même. Les mêmes conversations, les mêmes tours d'esprit, la même musique, les mêmes jugements. La différence ne peut pas être tolérée. Le clan se méfie de Swann et finira par l'expulser parce qu'il retient sa réserve, ce qui déconcerte parce qu'il laisse soupçonner chez lui une indépendance de pensée et de jugement. Or, dans la description du clan Verdurin, Un amour de Swann établit un contexte où règne la répétition et la loi. Ce qui est en jeu dans le texte, c'est la possibilité d'échapper sur les plans à la fois intellectuels et émotionnels à l'impérialisme du même. Et le roman correspond assez bien à ce qu'en dit Levinas, dans la mesure où c'est par l'expérience amoureuse que Swann va essayer de découvrir l'inconnu. Malheureusement pour lui, l'amour lui-même est devenu un scénario répétitif et monotone, où il retrouve ce que Proust appelle un caractère permanent et des buts identiques. Je sais bien ce que c'est les femmes. Je sais bien ce que c'est que les femmes, dit Swann. Les femmes sont toutes les mêmes. Elles n'offrent rien qui soit vraiment nouveau. Donc au début du texte, Swann ne saurait rencontrer Odette au sens levinasien d'une rencontre avec l'altérité absolue de l'autre parce qu'il ne la connaît que trop bien. Donc Swann va devoir faire un apprentissage. Il ne s'agit pas ici de l'apprentissage des signes décrit par Gilles Deleuze dans Proust et les signes, mais l'apprentissage de l'altérité. C'est ce qui sera entamé quand il entend pour la première fois la petite phrase de Vinteuil. La phrase semble lui proposer ce que Proust appelle, je cite, « des voluptés particulières dont il n'avait jamais eu l'idée avant de l'entendre, dont il sentait que rien d'autre qu'elle ne pourrait les lui faire connaître, il avait éprouvé pour elle comme un amour inconnu. L'expérience esthétique de la phrase est aussi érotique. En faisant allusion au poème à une passante de Baudelaire, le texte confond la féminité grammaticale de la phrase avec une personne féminine séductrice. Je cite encore une fois Proust, mais rentré chez lui, il eut besoin d'elle. Elle ici, c'est la phrase. Il eut besoin d'elle. Il était comme un homme dans la vie de qui une passante qu'il a aperçue un moment vient de faire entrer l'image d'une beauté nouvelle qui donne à sa propre sensibilité une valeur plus grande, sans qu'il sache seulement s'il pourra revoir jamais celle qu'il aime déjà et dont il ignore jusqu'au nom. L'expérience, la phrase, fait de Swann un homme capable de s'ouvrir à l'altérité, et dans cette mesure, elle ouvre la voie à sa relation avec Odette. Il est enfin à même de la rencontrer, toujours au sens levinassien, bien après qu'elle lui a été présentée pour la première fois. Il commence maintenant à se comporter comme l'homme enamoré de l'altérité que nous décrit Levinas. Il se trouve changé, en proie à d'étranges pensées et des sensations nouvelles. Encore une fois Proust, il fut bien obligé de constater qu'il n'était plus le même, qu'un être nouveau était là avec lui, adhérent, amalgamé à lui, duquel il ne pourrait peut-être pas se débarrasser, avec qui il allait être obligé d'user de ménagement, comme avec un maître ou avec une maladie. Il n'est plus lui-même, il ne se connaît pas plus qu'il ne se maîtrise. Et pourtant, le roman n'abandonne jamais tout à fait l'idée que l'expérience de l'amour, même quand elle est déroutante et imprévisible à un degré extrême, ne cesse d'obéir à des règles générales. Le texte vacille, traçant d'un côté les chocs, les surprises, les inconstances, les intermittences, dirait Proust, du comportement individuel, tout en les renvoyant de l'autre côté à un discours généralisant qui les explique en termes des principes qui les commandent. Même quand il réagit de la façon la plus incompréhensible pour lui, Swann ne croit pas moins que son amour, je cite, « obéissait à des lois immuables et naturelles ». Le texte proustien met en scène la tension et la rivalité entre l'exception et la règle, l'originalité de l'occurrence et l'intelligibilité du principe, l'irrégularité du particulier et la répétition de l'universel. L'amour de Swann pour Odette constitue à ses yeux une expérience de l'inconnu, mais le roman suggère qu'il est néanmoins régi par des lois générales. Est-ce que la règle commande tout à fait à l'exemple, ou est-ce que l'exemple dépasserait la règle? C'est la question que le roman ne cesse de poser à son lecteur. Il est certes le cas que le discours de l'universalité ne perd jamais de son prestige, mais, surtout à mesure que la jalousie de Swann s'intensifie et le pousse à des actes de plus en plus incontrôlés, l'autorité de la règle se trouve constamment mise en question par les excès de l'exemple individuel. Dans le roman de Proust, il n'est jamais garanti que la rencontre avec l'altérité, au sens de Levinas, puisse se faire ou être maintenue. Une telle rencontre devrait interrompre ou subvertir le discours de l'universalité que l'amour de Swann et à la recherche du temps perdu continue de soutenir. Si la rencontre a lieu, ce ne peut être que dans des contextes complexes et surdéterminés. Et ce qui distingue Proust de Levinas, c'est que pour le romancier, la rencontre doit s'intégrer à une narration de longue haleine qui laisse à cette dernière la possibilité de développer toutes les ambiguïtés qui lui sont inhérentes. Elle a une histoire qui comporte des étapes distinctes au cours desquels la signification de la rencontre évolue constamment. Au début, Swann est à peine sensible à Odette. Plus tard, il semble vraiment transformé par elle, sans toutefois s'intéresser à son passé, ni à ce qu'elle fait quand il ne la voit pas. Puis, il succombe à la jalousie et ressent un besoin enragé de possession et connaissance totale. À la fin de l'amour de Swann, Odette ne l'intéresse plus, mais nous savons aussi que les choses n'en resteront pas là. Swann finira par épouser la femme qu'il n'aime plus. La rencontre avec l'autre n'est pas un événement isolé qui affecte le moi de façon univoque et définitive. Elle est inséparable d'une narration dans laquelle se confondent amour, désir, possession, haine et indifférence dans des proportions toujours changeantes. Le désir de l'autre se mue facilement, trop facilement, en désir de sa mort. Quelquefois, nous dit le texte de Proust, quelquefois il espérait qu'elle mourrait sans souffrance dans un accident. Il se peut que l'amour de Swann le transforme, qu'il fasse de lui un homme plus ouvert, moins snob, plus attentif à la différence de l'autre. Mais son amour l'amène aussi à chercher à détruire l'altérité de l'autre dans la mesure où il ressent le besoin de la connaître tout entière. Odette comprend très bien que le désir de Swann est aussi le désir de la tuer. Elle dit « Oh Charles, mais tu ne vois pas que tu me tues. » Bon, pour conclure, je reviens enfin à Lévinas. J'ai souligné deux aspects de son essai « L'autre » dans Proust. Premièrement, le fait que Lévinas désigne La recherche du temps perdu comme poésie plutôt que roman. Et deuxièmement, la découverte dans le texte proustien d'une relation avec l'autre qui permet à Lévinas d'y trouver une perspective éthique à laquelle il peut se déclarer favorable. Je voudrais maintenant suggérer que ces deux aspects de la lecture lévinassienne sont liés. En refusant de voir l'élément narratif du roman de Proust, Lévinas se donne le moyen de séparer la rencontre avec l'autre de ses étapes différentes et des changements de signification radicaux qu'elle subit. Il peut fixer son regard sur les transformations du moi qu'elle facilite sans voir ses dégradations dans le temps. Proust n'exclut pas tout à fait la possibilité d'une rencontre éthique avec l'autre. L'autre est insaisissable, la rencontre est peu probable, mais les équivoques du texte proustien suggèrent qu'elle pourrait peut-être arriver, malgré tout ce qui semblerait lui faire obstacle. Mais l'amour proustien est aussi violent et possessif, tout le contraire du respect et de la responsabilité qui font partie intégrante de l'éthique lévinassienne. Lévinas ne voit pas que l'amant proustien est un sujet éthique, peut-être, mais aussi, en même temps, un meurtrier en puissance. Lévinas est littéralement incapable de lire, dans le texte de Proust, tout ce qui contredit ou risque de mettre en question l'éthique de la rencontre qu'il était en train d'élaborer dans les années 40. À cette époque, l'Holocauste était dans les pensées de Lévinas et il n'en disparaîtrait jamais, même si Lévinas n'en parlait que très rarement. On peut comprendre son éthique comme le refus obstiné d'admettre que les événements de l'histoire récente déterminaient une fois pour toutes le sens de l'humain. Il décrit sa vie comme, je cite, « dominée par le pressentiment et la mémoire de l'horreur nazie ». Il dédie sa grande œuvre autrement qu'être aux victimes de l'antisémitisme. Mais, comme pour conjurer la mémoire du génocide, il se fait le porte-parole, le mieux connu du monde, d'une éthique dans laquelle l'autre m'appelle à la justice et la responsabilité plutôt qu'à la violence. Sa philosophie est peut-être la dénégation soutenue, même héroïque, de ce qu'il savait très bien et ce qu'il ne pouvait se permettre de lire dans Proust, le fait que la relation avec l'autre est meurtrière. Ce n'est pas la moindre ironie ici que l'essai de Lévinas, qui concerne la possibilité de la rencontre avec l'autre, constitue lui-même une rencontre effectivement manquée. Ceci manifeste, de la part de Lévinas, une réticence à confronter les équivoques et les indécisions dans le texte de Proust, une réticence à reconnaître tout ce qui le séparait de Proust et un besoin angoissé de détourner son regard de la preuve par trop visible de la cruauté humaine. Le roman de Proust nous donne un aperçu sur la violence qui hante la relation avec l'autre. Lévinas cherchait, par contre, des raisons pour croire à la générosité et la justice. Il ne pouvait alors rien faire que passer sous silence ce qu'il vaut peut-être mieux ignorer. Mais, puisque la rencontre, sa possibilité et ses conséquences jouent un rôle si important dans la pensée de Lévinas, il est juste de nous demander si la rencontre manquée avec Proust jette une ombre sur son projet éthique. On pourrait dire simplement que Lévinas était un mauvais lecteur. Il l'était. Il n'a fait que reproduire dans ses actes de lecture ce qu'il était prédisposé à voir dans les textes qu'il lisait. Mais, à mon avis, les enjeux ici, les enjeux de la lecture, sont plus importants. Ils touchent à la possibilité même de la rencontre, sans laquelle l'éthique lévinassienne serait vouée à l'échec. Il y a des choses que Lévinas ne peut pas voir dans Proust. Il ne peut pas renoncer dans ses écrits à l'espoir qui est comme la condition de possibilité de la pensée de sa maturité, c'est-à-dire l'espoir que la rencontre avec l'autre est possible, qu'à partir d'elle, je me découvre en tant que sujet éthique et que j'y répondrai sans commettre de meurtre. On peut voir dans sa lecture tellement partielle de Proust la trace de cet espoir qui détermine son incapacité à contempler, dans le texte même qu'il avait sous les yeux, tout ce qui le contredisait. Merci. Qu'est-ce que vous voulez dire par l'aspect littéraire de son écriture?
Alors effectivement, on tourne sur la question de comment est-ce qu'on définit la littérature d'un texte. J'ai le sentiment de lire effectivement un texte qui a lui-même une qualité poétique, pour reprendre ce qu'il disait sur Proust. C'est vrai que c'est une forme d'écriture très travaillée, très littéraire, même si à définir exactement ce que ça veut dire, mais à la fois peut-être par des aspects rhétoriques, anaphoriques, il y a toute une dimension.
Non, je suis tout à fait d'accord, mais Louis ne le saurait pas, je pense. Louis n'aurait pas aimé ce que vous dites là, je pense, parce que quand vous parlez de la rhétorique, il y a un refus tout à fait platonique de la rhétorique dans Lévinas. Il semble penser, c'est très bizarre, après tout ce qui s'est passé dans la philosophie française, il semble penser qu'on devrait dire ce qu'on a à dire, et c'est tout, et pas se servir de tour de rhétorique. Donc, mais oui, c'est vrai, pour lui, l'écriture véritable, c'est la philosophie. L'exception, c'est le Talmud. Et ce qui me semble, ce que je n'arrive pas, ce que j'essaie dans ce que j'ai écrit sur Lévinas et la littérature, c'est comprendre pourquoi il accorde au Talmud toutes les qualités qu'il refuse à la littérature. Parce qu'en tant que lecteur du Talmud, il fait tout ce qu'on pourrait. Il examine les ambiguïtés, il joue, il fait des tours d'esprit, etc., etc. Et on pourrait dire simplement que c'est un croyant. Mais il semble croire qu'il y a dans le Talmud quelque chose qui est en même temps ambigu et vrai, et qui vaut la peine d'être discuté. Précisément tout ce qu'il refuse de voir dans un texte tel que Proust, dans la littérature.
Tu ne crois pas que, pour moi je suis très loin d'une lecture talmudique, mais est-ce que tu ne crois pas que ce qui le gêne, parce que ce qu'il aime dans le Talmud, et ce qui fait qu'il ne veut pas accorder la même attention, la même sollicitude, le même amour, la même caresse à la littérature, c'est que pour lui, à partir du moment où il est tellement vraiment son discours, son positionnement partout de là. Et si je me souviens bien de ce qu'il y a dans la culture politique, c'est que pour lui, la littérature s'apparente à la sorcellerie, à la magie, et qu'il ne peut pas, à partir du moment où il adopte cette posture de lecteur du Talmud, de l'exégète du Talmud, il ne peut pas ne pas associer implicitement, inconsciemment la littérature à des opérations de sorcellerie.
Non, tu as tout à fait raison, mais j'arrive quand même pas à comprendre, parce que quand il parle du Talmud, bon, c'est un texte sacré, mais pour lui, c'est un texte écrit par des personnes humaines, c'est pas un texte donné par Dieu, mais quand même, il y a dans ce texte un prestige qu'il refuse à l'écriture littéraire. Et il n'arrive pas à expliquer, à moi au moins, comment ça peut arriver.
J'ai une réflexion spécifique sur cette question de la spécificité du texte talmudique, biblique par rapport à la littérature, ou c'est simplement à travers sa pratique qu'on peut inférer ces conceptions.
Il parle de l'héméneutique talmudique, mais ils n'en parlent pas dans le même contexte que la littérature. On ne peut pas parler des deux choses ensemble, selon lui. Et c'est précisément ça que je voudrais de lui. Moi, c'est une comparaison. Pourquoi est-ce qu'il peut accorder un tel prestige à un texte qui est quand même pas un texte donné par Dieu? À son avis, c'est un texte écrit par des humains. Donc, c'est un texte littéraire. Mais c'est tout à fait différent. Et il refuse toute comparaison avec même les grands textes, même les textes qu'il ne déteste pas, tels Dostoïevski, etc.
J'ai un petit peu le sentiment, d'après ce que vous disiez, que l'autre dans le texte littéraire se résumait finalement, in fine, à l'autre personnage, et non pas à une autre forme d'altérité qu'on pourrait trouver, par exemple, dans le... Il me semble que cette lecture est un petit peu inspirée de Blanchot, où Blanchot, lui, parle plutôt d'une altérité du langage, d'une altérité d'un évidement du texte, où apparaîtrait un autre type d'altérité. Donc, est-ce que finalement, ça n'explique pas un petit peu ce qu'on est en train de dire, c'est-à-dire que dans le Talmud, l'altérité du personnage, c'est quand même l'altérité divine, donc du coup une altérité plus complète, plus intéressante, qui susciterait une lecture du coup plus amoureuse.
Oui, c'est
en plus, très souvent, sont de fausses vérités, pour appeler la force de la loi, la force du principe. Donc, en fait, toutes ces vérités finissent par n'être plus que des illusions d'altérité.
Oui, je pense que la raison la plus facile pour qu'il refuse l'altérité à la littérature, c'est que l'altérité, en son sens, doit être ou humaine ou divine. Donc, l'altérité du langage, ça ne veut rien dire dans le vocabulaire levinasien, je pense. Mais c'est aussi bizarre, vous faites référence à Blanchot, c'était de grands amis pendant des décennies. Mais, et, bon, il y a pas mal de choses que Blanchot a appris à Levinas, je pense. Mais il y a des choses dans Blanchot que Levinas refuse tout à fait de voir, qu'il aurait pu apprendre à partir de Blanchot.
Moi, je t'ai trouvé un petit peu injuste au début. Lorsque tu dis que Levinas a toujours détesté la littérature, il n'a jamais rendu hommage, je me souviens que j'étais étudiant en lycée, c'est ça, c'est sans doute qui avait marqué. Je ne sais pas s'il faut accorder une importance à cette déclaration de Levinas qui n'a pas lieu d'être mise ainsi en exergue. Je ne sais plus dans quoi c'est dans un recueil d'entretien avec Nemo, je crois, mais je ne suis plus sûr. Où Levinas, Nemo lui pose la question en disant mais qu'est-ce qui a déterminé votre parcours philosophique ? Je me souviens de ça, Levinas dit il y a la Bible, bien sûr, mais il y a aussi Shakespeare. Et il ajoute, je retrouverai la référence parce que je suis sûr de ça, et il ajoute je considère que toute l'histoire de la philosophie n'est jamais qu'un commentaire de Shakespeare.
Ah oui ? Ça, j'avais tout à fait oublié.
C'est un entretien. Alors, il parle à ce moment-là des fantômes de la mort. Donc, ça t'intéressera encore plus que le contexte que nous avons ici, pour laisser supposer. C'est vraiment la pensée de la mort chez Shakespeare, me semble-t-il, qui va déterminer la réponse qu'il fait à ce moment-là à son interview. Mais il y a une phrase définitive de ce type, toute l'histoire de la philosophie n'est jamais qu'un commentaire de Shakespeare.
Bon, si j'avais lu ça, j'ai tout à fait oublié.
Je suis d'accord avec toi, c'est sûr de Dostoïevski, de Chélan, de Jabès, de Proust. C'est vrai qu'on continue bien, je ne sais pas. Cela dit, et puis après je repasserai la parole. Il m'a semblé à un moment, mais je ne suis pas sûr de l'avoir compris, de l'avoir mal interprété, lorsque tu dis que la phrase de Proust est finalement ce qui contourne, touche de manière très sensuelle, très charnelle, et plutôt que de dire la phrase d'un le phrasé de Proust tourne autour de l'altérité. De tel ou tel personnage féminin, je me demandais si Levinas n'aurait pas été d'accord pour dire que c'est que cette érotique de la caresse dont il parle de temps et l'autre,
oui.
Cette érotique de la caresse dont il parle n'est pas de l'ordre du phrasé dans la littérature, et c'est ce qui le fascine autant chez Proust dans ce rapport très, très ambivalent à l'écriture de Proust. L'altérité, c'est pas ça, mais ça, c'est quand il parle des personnages, et où en même temps, l'expérience de la lecture du phrasé de Proust lui donne à saisir quelque chose qui est en effet de l'ordre de l'altérité, c'est-à-dire quelque chose qui, comme la caresse, ne sait pas ce qu'elle cherche. C'est un peu la phrase, le phrasé de Proust. Et je me demandais si j'avais surinterprété ce que tu disais à ce moment-là, ou si tu le suggérais quand même beaucoup plus fortement, et c'était un travail en germe dans ce que tu
étais en train de dire. J'aimerais bien penser, oui. Mais, il me semble que ce qui n'aime pas dans la relation avec un texte, par exemple dans l'érotisme possible d'un texte ou d'une phrase dans un texte, c'est qu'il trouve quelque chose qui s'apparente à une relation avec l'autre humain, mais qui ne l'est pas. Et c'est pour ça que j'ai essayé de distinguer entre une bonne altérité et une mauvaise altérité. Ce sont des choses pareilles, mais fondamentalement différente pour lui, et qu'un texte littéraire est capable de causer, de donner lieu à une réponse érotique est un peu trop dangereux, parce que c'est presque comme si c'était une personne humaine. Et c'est à ce moment-là que ça tombe dans la mauvaise altérité, je pense, pour lui. C'est trop pareil à ce qu'on pourrait, à une expérience qu'on pourrait avoir avec une personne. C'est trop pareil et donc c'est à refuser. Je pense. C'est une hypothèse.
Peut-être sur cette question de la théorie, parce qu'on a un peu l'impression que c'est à la fois une avancée de la pensée de Lévinas et en même temps une impasse, puisque au bout du compte, ce qui compte, c'est quand même la rencontre avec l'autre personnage, l'autre humain, et certainement pas ce que propose la poésie, c'est l'ambiguïté, le vide, le langage. Donc, on a l'impression que c'est un peu. Oui, c'est une impasse.
Oui, non. Je suis tout à fait d'accord.
On a l'impression qu'à un moment, Lévinas trouve une ouverture dans la pensée Blanchot, dans cette idée, finalement, d'une littérature, finalement, de la poésie. Et puis, finalement, ça ne convient pas et qu'il rebascule du côté de la narration en faisant. Alors, peut-être justement, la poésie lui permet de faire l'économie de la narrativité dans sa lecture.
Oui, mais c'est très bizarre.
Des instants.
Oui. À mon avis, c'est très bizarre qu'il ne dise jamais que Proust est un romancier. Il dit que c'est un poète. Et c'est comme si c'était, comme si c'était une éloge, parce que romancier, c'est une insulte. On n'aime pas les romanciers, donc je fais hommage à Proust en l'appelant un poète, en lui accordant ce mot de poète. C'est très bizarre. Et pourquoi refuser au roman de Proust le statut de roman?
Cela dit, dans l'écriture de Proust, il y a bien ce mélange de stases et de mise en mouvement. On a toujours des arrêts, le passage de la naissance, cette immense phrase qui se développe, il se passe des tas de choses, mais où finalement il n'y a pas toujours de narration.
Oui, mais je ne pense pas que ce soit un jugement générique quand il parle de poésie ou de roman. Je ne pense pas qu'il y a une définition là. Du roman, c'est ceci, la poésie, c'est cela. C'est simplement que le roman, c'est mauvais.
Vous suggérez tout à l'heure, je suis tout à fait convaincu, que pour lui, poésie veut dire ne considérer que des moments du texte,
oui,
isolés des fragments, et ne pas considérer la chronologie.
Oui, il n'y a pas de réseau. Et c'est ouais, qui fait, à mon avis, l'importance de tout ceci pour la pensée plus générale de Lévinas. Parce que la rencontre, il n'y a pas de réseau dans la rencontre. C'est quelque chose qui m'arrive et qui me change totalement. Mais il n'y a pas de narration de ce qui arrive après. Il n'y a pas la narration de la dégradation de l'amour qu'on trouve dans Proust.
C'est quand même un peu comme ça, je pense. Parce qu'il y a la narration existe effectivement, transforme les choses. Il n'empêche qu'il y a des moments de rencontre et qui semble se succéder sans la réminiscence chez Proust en particulier, qui semble se succéder sans véritablement changer de nature. C'est toujours la même réminiscence qui revient, qui fait appel, et il y a des narrations, mais qui finalement ne changent rien à la nature de cette rencontre qui fait signe du législateur et qui n'est jamais saisie que de manière oblique.
D'accord.
Je sais pas.
Moi, je crois que je réponds à toi, et du coup, je laisse Colline de côté, mais c'est sous contrôle de Colline. Quand Lévinas hésite à dire de Proust que c'est un romancier, c'est ce que disait Colline, c'est qu'on est au lendemain de la guerre de l'Holocauste, et que roman pour lui, romancier, c'est se laisser happer par un récit. Et c'est donc tomber dans le péché de solitude. C'est qui est le péché majeur au lendemain de la guerre. Il faut aller vers l'autre, la rencontre frontale avec l'autre, le face-à-face, le visage, l'expérience du visage. ça, je crois, que ce qui va reprocher au roman. Alors que ce qu'il va nommer poésie, c'est précisément ce qui va précipiter ces stades, ces moments des citations, où le texte va soustraire le lecteur au désir de totalité, au fantasme de totalité. Et donc, d'enfermement, je ne sais plus comment il appelle le professeur, il appelle un mot.
J'ai l'impression aussi que sa vision de la poésie est une vision fort influencée par le symbolisme et que, si vous voulez, il y a l'insistance sur le refus de la narrativité qu'il y a dans le symbolisme avec l'ambiguïté que vous avez souligné d'une fois chez Proust. Est-ce qu'il ne conduit pas de la poésie navrante? Je ne sais pas si l'on parle pourquoi par ses écrits.
Très peu.
Très peu. Est-ce que ce sont ces références-là qui...
Je pense vraiment pas. Il parle peu dans ses écrits postérieurs. Il y a un essai sur Paul Celan qu'il connaissait, qu'il aimait bien. Mais il parle principalement des écrits théoriques de Celan, pas de sa poésie. Et il trouve même plus... Il est même plus frappant que ce qu'il trouve dans la poésie de Celan, c'est lui-même, tout à fait lui-même. Ce qui est intéressant dans Celan, c'est qu'il va au-delà de l'essence. Il commence presque à se citer dans sa lecture de Celan. Ses références poétiques, ouais, je ne suis pas certain qu'il y en a vraiment. Il prend un peu... C'est presque la première phrase de Totalité infinie, je vais être un autre. Bon, il fait référence à Rimbaud, mais ça s'arrête là, franchement. Je ne sais même pas s'il connaissait les symbolistes. Bon, il les connaissait un peu, sans doute, peut-être à travers Blanchot. Mais c'est l'un des aspects étranges de son amitié avec Blanchot. Premièrement, ils ne se sont pas vus pendant, je pense, 30 ou 40 ans après la guerre. Ils disaient toujours que c'était les meilleurs amis du monde, mais ils ne se voyaient pas. Mais ça à part, c'est aussi qu'il me semble qu'il aurait pu apprendre pas mal de choses de Blanchot, surtout concernant l'histoire de la littérature, la fonction de la littérature, la poésie, le symbolisme, justement. Ils ne sont pas les avoir appris. Thank you.